L'Association des maires des Alpes de Haute-Provence, ADM04, organisait jeudi dernier à Manosque le salon du congrès départemental des maires. Une nouvelle édition marquée par la présence de David Lisnard, président national des maires de France, et de Renaud Muselier, président de la région Sud. Ambiance et réaction de cette rencontre au micro de Chris Alessandri.
Voilà, nous sommes actuellement sur le salon du congrès des maires à Manosque, à la salle Osco-Manosco, et c'est David Lisnard, président des maires de France, qui est en train de prendre la parole. Nous allons retrouver dans quelques instants les principaux acteurs de cette rencontre.
C'est-à-dire, au nom de l'environnement, on nous empêche une action qui est nécessaire à la régulation de l'eau.
Éric Fortuné, Entrevennes. Je pose une question qui n'est pas sur une annualité, mais sur un siècle. C'est le problème, à la suite de la loi de 1905, de l'attribution aux communes des églises. Ça pose un problème qui est le suivant. Si en 1905, il y avait beaucoup de catholiques qui cotisaient pour entretenir les églises, on se trouve aujourd'hui dans une situation qui est toute différente. Nous avons donc, et c'est le cas entre Vennes, des églises qui sont en très mauvais état et qui, peut-être un jour ou l'autre, vont devoir être frappées d'un arrêté de péril. Le problème est alors le suivant. L'arrêté de péril fait obligation au maire d'entretenir et de faire les travaux de restauration, le cas échéant, aux frais du propriétaire. Mais là, nous avons un propriétaire qui est justement la commune. Et lorsque le budget communal ne permet pas d'envisager des travaux importants et même extrêmement importants, on a un maire qui se trouve en risque de responsabilité pénale s'il y a un effondrement et qu'il y a des blessés. Et on a un maire qui est dans l'impossibilité de faire les travaux pour effacer ce risque pénal. Voilà la situation que je veux signaler. Voilà la question que je pose.
Merci Daniel. Bonjour à tous. Je ne vais pas faire de salut protocolaire. Je crois que la phase discours protocolaire est postérieure. En tout cas, merci à vous. Merci de votre accueil. Nous reviendrons tout à l'heure dans les propos sur le caractère crucial de la période dans laquelle nous sommes. Et qui, à mon avis, met en péril même l'existence des communes à terme. Et je le répéterai devant les autorités de l'État, notamment les services préfectoraux avec qui on travaille bien partout, on sait bien que le problème n'est pas là. Il faudrait même réarmer les préfectures, je dirais, et désarmer quelques agences et quelques services de l'État qui ne font que parasiter l'activité et la ralentir. On est à un moment important et pour répondre aux questions, et c'est Laurence qui disait tout à l'heure on va vous accabler. Moi, vous ne m'accablez pas. Moi, ce qui m'accable, c'est de voir que je sois chez moi, dans ma commune, dont je dirais quelques mots, ou dans l'Isère, où j'étais samedi dernier. Ma femme préfère que les assemblées générales aient lieu en semaine, d'ailleurs. Donc, je vous remercie de faire ça. Ça me permet d'être le week-end de temps en temps chez moi. Et où que je sois dans l'Haute-Vienne, on a parlé de la problématique des églises. Quand j'y étais, ce qui m'accable, c'est de voir la dégradation de notre capacité de travailler. Je ne vais pas être trop long là, je vais répondre aux questions, mais avant d'être maire, j'ai été élu local, je suis élu local depuis 2001, et avant, j'ai travaillé dans le privé, j'ai eu des commerces sur 2016, vous savez tout. Et avant, j'ai été directeur de cabinet de Jacques Pélissard dans le Jura, avant de revenir chez moi à Cannes. Jacques Pélissard n'était pas encore président de l'Association des maires de France, il était vice-président, il avait la fibre, et il était le formidable député maire de Lons-le-Saunier. Et j'ai vu cette difficulté croissante à agir, qui fait que lorsqu'on lançait un projet il y a 20 ans, on regardait ce qui était interdit pour essayer d'éviter les erreurs. Maintenant, lorsqu'on lance un projet, on recherche ce qui est autorisé. Voilà. Et c'est toute la différence. Donc moi, ce qui m'accable, cher collègue, Laurence, c'est toute cette somme de témoignages qui confirme ce que je constate dans ma commune, et c'est ce qui me motive aussi pour continuer d'assumer cette mission et au sein de l'AMF, qui est une mission bénévole, hein, je répète pour tous ceux qui sont à cette table ici, on est tous bénévoles. Voilà, je répète pour certains, je pense que tout le monde le sait, mais c'est bon de le rappeler, et c'est vrai pour le président national aussi. Et qui est une mission parce qu'elle renvoie au-delà des clivages partisans, c'est la force de l'AMF aussi, elle renvoie à une conception sans exagérer, utiliser des grands mots, mais une conception de la vie, quoi, tout simplement, qui repose sur la responsabilité et la liberté. Et moi, ce qui me désole, c'est de voir qu'on est devenu dépendant des autres, c'est-à-dire de l'État, qui lui-même n'a pas un rond, et on voit l'évolution depuis 25 ans, enfin, Il n'y a que des jeunes maires ici, mais s'il y avait par hasard quelques maires qui ont quelques années d'antériorité, je pense qu'ils pourraient cautionner ce que je vous dis. Sur les questions, oui, puis la ville, je dis au passage aussi, c'est une ville merveilleuse. On est chacun maire de la plus belle ville du monde. Bon, la réalité, c'est que c'est Cannes, évidemment. Mais après Manosque, voilà. Parce que la cité de Genoa, hein, c'est comme un port au milieu d'un golfe, c'est ça la situation de Genoa, hein, si je me souviens bien. Mais plus sérieusement, c'est Cannes est une ville, comme toutes nos communes, très compliquée, dans le sens où c'est une ville très connue, qui est prestigieuse par son festival et par l'est de sa ville, c'est-à-dire la Croisette. Mais c'est une ville qui a un taux de pauvreté, je le répète à chaque fois, parce que vous le savez, mais quand je suis interrogé par des journalistes, ils s'imaginent tous que à Cannes, on bouffe du caviar et on prend des pains de champagne avec Sharon Stone. Or, c'est trop peu fréquent, c'est trop rare. Voilà. Ça, en tout cas, ça n'est pas encore arrivé. Et donc, c'est une ville qui a un taux de pauvreté de 21%. Hein, elle est historiquement pauvre. La moyenne française, c'est 13,8%. Hein, je répète. Hein. C'est une ville qui n'est pas carencée en logements sociaux, même si c'est difficile, parce que c'est la ville qui a le plus de logements sociaux des Alpes-Maritimes. Voilà, je répète aussi. Et c'est une ville très contrastée avec les problèmes qu'on rencontre partout de déserts médicaux, de violences urbaines et de postes. Et ça me permet donc d'embrayer sur la question, monsieur le maire, mademoiselle, sur la présence postale. Alors, quand on est dans une ville très urbanisée, on se dit la poste plante les quartiers. Quand on est dans la ruralité, on dit la ruralité, on est vraiment méprisé. La réalité, c'est que les bureaux de poste, ils ferment partout. Et qu'avec le président de la Poste, Philippe Ball, qui est un type proactif hein, et compétent, à l'initiative à l'époque de Jacques Pélissard, puis de François Barouin et continue aujourd'hui, nous avons signé un contrat de présence postale et on a signé lors du précédent congrès Porte de Versailles en 2023 la nouvelle mouture du contrat de présence postale qui en réalité nous permet de garder des points relais. C'est 11 500 points relais de mémoire qui sont en jeu. Mais qui s'est traduit depuis une vingtaine d'années par un transfert de charges, hein, puisque nous assumons une partie. C'est comme les France Service. Tout le monde dit c'est formidable France Service, sauf que moi qui ai un peu d'expérience, il y avait les mêmes services, voire plus de services il y a 25 ans, et c'est pas nous qui les assumions, ou qui en assumions une partie du financement. Hein, aujourd'hui, France Service, c'est souvent dans les locaux municipaux ou départementaux, ou intercommunaux, hein, voilà. Et on met la main à la poche sur des services qui n'ont pas été transférés par la décentralisation. Donc, c'est très bien, il vaut mieux France Service que rien, mais il faut rappeler que c'est quand même une montée en charge pour nous. Sur la Poste, j'essaie moi de vous adresser régulièrement des éléments d'activité et d'argus, hein, mais on s'est battu cet été sur une coupe, parce qu'il y a eu cet été la prise de pouvoir. J'allais dire absolu, c'était un pouvoir presque absolu jusqu'à maintenant, de Bercy. Hein. Vacances politiques, on regardait les JO, gouvernement dit démissionnaire, mais Bercy en a profité pour faire ses courses. Et donc il y avait une suppression du mine de 50 millions d'euros sur la part due par l'État dans le cadre du contrat de présence postale. La seule arme que l'on a, nous, à l'AMF, parce que moi je suis pas le préfet, je suis pas le ministre, je suis pas le législateur, et je salue bien sûr les parlementaires. Nous, on est une association, je suis un maire comme vous. Hein, donc ce que vous me dites, ça renforce mes arguments, et on a à l'association un peu plus de 60 collaborateurs qui sont de très bon niveau et qui sont à votre service. Hein, on a fait 12 000 interventions l'année dernière en service de conseil aux communes. On ne peut pas faire du paracommercialisme, mais n'hésitez pas à nous solliciter. Donc notre arme, elle est l'argumentation d'aller voir les ministres et les parlementaires, et elle est l'accès aux médias, il faut dire les choses. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Très souvent, la capacité d'activation d'une action, de l'action publique, elle dépend de la capacité d'accès aux médias. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc cet été, on a crié fort avec le président de la Poste et moi-même. Lui, il l'a fait, je crois que c'était devant l'Assemblée des maires ruraux, d'ailleurs. Et moi, je l'ai fait médiatiquement pour dire que l'État ne respectait pas sa parole et que si les 50 millions n'étaient pas tout de suite abondés, on avait la fermeture programmée, en tout cas la remise en cause, de 11 500 points relais de la Poste, qui sont des points essentiels pour récupérer les colis, etc.
David Lisnard, vous êtes président des maires de France, vous êtes maire de Cannes, vous êtes ici donc à Manosque à ce congrès des maires. Vous avez tenu à être là, pourquoi ?
Parce que c'est mon rôle de président des maires, d'aller à la rencontre de tous mes collègues partout. Et c'est chronophage, c'est vrai, mais c'est passionnant. Alors, on est tous bénévoles à l'AMF, mais on est tous passionnés. Et je voulais entendre, à travers les questions, c'est intéressant, les retours d'expérience, qu'on soit dans une grande ville, dans une ville rurale, une ville de montagne, une ville littorale, on rencontre tous les problèmes du millefeuille administratif et du maquis que l'on affronte, qui coûte très cher aux finances publiques et qui coûte très cher en vocation aussi. C'est ça qu'il faut dire. Donc moi, c'est de nourrir, de renforcer mon expérience, d'apporter aussi des éléments d'information sur ce qu'on peut obtenir ou pas et sur des avancées récentes. On parlera budget, évidemment, tout à l'heure, parce que le sujet, il est majeur. Et donc de faire mon rôle. Je suis mandaté par les maires, je suis à leur service. C'est aussi simple que ça.
David Lisnard, vous avez été interpellé sur divers sujets. Quels sont ceux sur lesquels vous avez vraiment envie de donner votre opinion ?
Mais tous, parce que tous, en fait, renvoient, qu'on parle du curage des torrents, qu'on parle du nettoyage des réseaux d'aspersion pour les agriculteurs, qu'on parle de la présence postale, qu'on parle de la sécurité d'un bâtiment ou de l'entretien d'une église. À chaque fois, le sujet est le même, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de pouvoir d'action juridique et financier. Et que si on veut, nous on est attachés au pays, moi je suis pas un corporatiste, je défends pas la corporation des maires, ça n'existe pas ça. Nous on est là pour l'intérêt général, on veut que l'État soit fort, que le pays se redresse. Ça ne peut passer que par la décentralisation du contrôle, mais du contrôle a posteriori, mais plus de l'entrave a priori. C'est tout ça la philosophie. Donc il faut l'étayer par des exemples, par des solutions. Cette collègue qui ne peut pas curer le torrent, je vais me battre pour qu'elle puisse curer son torrent parce que c'est un enjeu majeur, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais il va falloir changer complètement le système qui est totalement centralisé et bureaucratisé.
Daniel, chère Camille, merci de votre accueil que vous nous faites. Vous avez du débat, je ne vais pas prendre la parole longtemps parce que je dois remonter à Paris sur la compétence eau et assainissement. Et cet après-midi, nous avons une proposition pour que l'eau devienne facultative et l'assainissement aussi. Monsieur Lisnard, vous êtes battu aussi et permettez-moi de vous adresser les salutations de Françoise Gertel que j'ai vue hier à Paris. Juste pour vous dire que, avec mon collègue Jean-François Rappé, nous avons une émission commune que nous avons terminée mercredi dernier sur les inondations et que nous avons remis au président Larcher. Et donc, je vous ferai part de ce rapport, Monsieur le Président Lisnard, parce qu'il y a des informations que nous avons prises, parce que nous avons fait des visites dans le Pas-de-Calais, dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes-Provence, par rapport aux inondations. Et c'est vrai, Laurence, que ce que tu dis, le problème d'entretien des cours d'eau, parce que moi je dis plus d'entretien que de curage, parce que le curage, il faut descendre un seuil très important, mais l'entretien des cours d'eau, déjà à travers tout ce qui est hamac, tout ce qui est sédiment, d'essayer à ce que l'eau ruisselle normalement, c'est quelque chose qui devrait avoir une simplification administrative. Avec mon collègue Jean-François Rappel, donc nous allons proposer, et c'est le président du Sénat qui nous l'a demandé, au printemps prochain, à ce qu'on essaye de faire une proposition de loi pour qu'on ait une simplification et aussi, surtout, un accompagnement de l'État au niveau des collectivités. Parce qu'on s'aperçoit que vous êtes tout seul, et une fois que vous faites quelque chose, de suite, les services de l'État arrivent, et je regarde Elisabeth Jacques qui a touché de près vraiment ce qui s'est passé dans l'Ubaye. On ne peut pas intervenir dans les cours d'eau. Donc on demandera à ce qu'il y ait une simplification administrative dans ce domaine-là, avec un accompagnement, une ingénierie de l'État qui soit à votre disposition au niveau des collectivités territoriales. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, je vous souhaite, excusez-moi, je vais remonter à Paris. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole.
Si vous me permettez, Monsieur le Président, je rebondis sur le propos du sénateur Roux, le cher Jean-Yves Roux. D'abord, félicitations pour cette intervention et ce travail. Alors, c'est un sujet moi, qui me passionne. C'est que en 2015, à Cannes, Mandelieu, on a eu 20 morts. Hein, c'était 200 mm en 1h30. Hein. Là, le 23 septembre, j'ai eu 52 mm. Alors, c'est pas beaucoup, 52, mais en 20 minutes. Et avec, en plus, un réceptacle. Et la ministre qui dit c'est pas les chutes du Niagara. Il est tombé 40 mm à Paris en 4 heures. Ils étaient inondés. Voilà. Mais nous, c'est tout. Enfin, je ne reviens pas là-dessus parce que ça m'a tellement énervé. Bref, c'est un sujet majeur. À l'AMF, dès que vous m'avez confié l'honneur d'être président de l'association, il y a 3 ans, l'une des premières décisions était de mettre en place une mission risque majeur, qui a été confiée donc, de façon paritaire à élu de gauche et de droite, Éric Ménassy, le maire de Trèbes, qui a eu inondation et attentat, hein, et Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu, parce que c'est une commune qui, comme moi, est voisine et est un réceptacle de tout ce qui nous arrive de l'amont et qui est assez spectaculaire. Ils sont à votre disposition aussi, si vous le souhaitez, parce qu'ils tournent dans chaque département pour comment on actualise les plans communaux de sauvegarde, comment on actualise les 10 crimes, etc. La problématique de GEMAPI, elle fait partie de ces éléments de transfert de charges qui n'ont pas été décentralisés.
mais qui sont une réalité. Parce qu'avant, en fait, il n'y avait pas de politique publique du risque majeur territorialisé. Ce n'était pas conçu, mais on retrouvait cette responsabilité dans l'aménagement du territoire. Et c'était une compétence de l'État, pour parler clair, comme le trait de côte, comme l'entretien des digues fluviales, dont le coût est estimé à 15 milliards. Et c'est aujourd'hui les interco et les communes qui récupèrent ça, et les départements qui sont nos partenaires naturels et évidents. Dans le bassin dit dans lequel je suis, avec l'agglomération que je préside, on a lancé trois PAPI, trois plans d'aménagement, qui sont pionniers en France. La charge, coût 2018, elle est de hors taxe 148 millions d'euros, sur 18 ans. Donc, on a obtenu des financements de l'État, mais ils ne sont pas codifiés du tout. C'est-à-dire que ça a été qu'un travail d'influence, d'insistance, et on a obtenu un cofinancement de l'État. Mais cette question de l'ingénierie, elle est majeure, notamment pour toutes les communes rurales, et pas que les communes, mais aussi les intercommunalités, parce que, comme en plus l'État procède souvent par appel d'offres et par appel à manifestation d'intérêt, il amplifie la fracture territoriale parce que les communes rurales ou les intercos qui n'ont pas d'ingénierie ne peuvent pas répondre dans les temps et avec compétences humaines juridico-administratives qui sont complètement absconses, quoi. Bon, ça enrichit les cabinets aussi, conseiller ce genre de démarche. En tout cas, moi, je suis très preneur pour qu'on fasse une action commune. Vous avez évoqué l'eau et l'assainissement. On a obtenu un engagement du Premier ministre, le Sénat et l'AMF, grâce à une action commune depuis des mois. Ce n'était pas la position de Françoise au départ, mais je crois qu'elle a évolué sur sa position. C'est-à-dire qu'on a obtenu le fait que le transfert eau et assainissement ne soit pas obligatoire aux intercos au 1er janvier 2026.
Renaud Muselier, président de la région, votre présence est très appréciée, vous êtes très sollicité. Vos impressions comme ça à chaud au cœur même de cet événement?
Beaucoup de stands, ce qui montre un dynamisme des élus vis-à-vis de l'activité technique, présentiel, éclairage, surveillance, organisation territoriale. Si les stands sont aussi nombreux, c'est que les élus sont dynamiques au service de leur population. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. On a le président de l'Association des maires de France qui est ici, le président bien sûr des maires de département, le maire de Manosque, bon, moi le président de région. On voit bien quand même qu'il y a une volonté de se retrouver pour parler ensemble de notre avenir collectif au service de nos concitoyens. Et c'est vrai que le contexte politique national est toujours très inquiétant. Et donc, ça sera l'occasion, ici, aujourd'hui, de rappeler quelques fondamentaux de l'action des maires vis-à-vis de leurs concitoyens. Et puis aussi, lundi, on aura, lors de l'Assemblée des maires de la région, Madame Vautrin qui sera là, avec des explications aussi complémentaires pour voir comment on avance.
Les maires, ce sont des hommes de terrain. Les questions qui se posent, ce sont les mêmes que vous vous posez vous aussi. Vous y réfléchissez donc avec eux.
Globalement, rien ne peut se faire dans les mairies sans nous, sans moi. Enfin, c'est en la région. Nous, la région, on paye entre 50 et 70% de tous les investissements des mairies dans la région. Donc sur les 946 communes à peu près, vous avez, nous, on paye, la région, entre 50 et 70% de leur investissement. Donc on a inscrit au niveau régional ce que j'ai appelé une COP d'avance, c'est le premier budget vert d'Europe. Et quand un maire veut refaire sa place, ben je la paye à hauteur de 50 ou 70%, mais il faut qu'il ait le tri sélectif, il faut qu'il ait l'éclairage électrique, il faut qu'il ait l'accès pour les mobilités réduites, il faut qu'il se plie à un mode d'avenir et de projection dans l'avenir. Et nous, là-dedans, on l'aide dans cette démarche-là. Et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde.
Eliane Bareil, président du conseil départemental, vous êtes arrivé très tôt, vous avez déjà fait tout le tour donc, de cette exposition des artisans. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah écoutez, c'est pas tant des artisans, ce sont surtout les partenaires des collectivités territoriales. Donc on rencontre des gens avec qui on a l'habitude de travailler. Et c'est bien parce qu'on est dans un autre contexte, donc ça nous permet de discuter librement.
Alors, j'ai remarqué la discussion, la relation est très directe avec vous, on vous interpelle sur les stands.
C'est ça, ben, je crois que voilà, ici dans ce département, on m'appelle Eliane et moi j'en suis ravie parce que c'est le signe de ma proximité avec les gens.
Eliane Bareil, le combat des maires à l'heure actuelle, vous êtes là bien sûr, vous les soutenez. Vous êtes quelqu'un qui œuvrait avec le cœur également, avec les sentiments.
Bien sûr, moi je suis très attachée à ce territoire et donc aux communes qui le composent. Donc d'ailleurs je ferai une annonce tout à l'heure. Nous maintiendrons, nous au niveau du département, les aides à destination des communes et des intercos malgré la ponction qui nous est faite.
Sandrine Cossera, maire de Vaulonne. Sandrine Cossera, vous êtes la trésorière de l'association des maires du 04. Vous êtes présente et depuis ce matin, bon, c'est vrai que les discussions vont bon train. Quels sont les moments qui vous ont marqué, qui vous ont interpellé?
Déjà, on est évidemment interpellé par la présence du président national des maires de France, qui nous fait l'honneur de sa présence. Aujourd'hui, au niveau des maires, on sent de l'inquiétude. On en exprime toujours un petit peu parce que c'est le moment où c'est le moment des revendications. Mais là, je dirais que le ton est plus grave. On le voit sur parfois de l'incompréhension sur la façon de gérer des sujets où on a l'impression d'être un peu empêché. Bon, en même temps, vous voyez la forte présence des maires autour de notre président local et national. Donc tout le monde a aussi envie d'apporter des réponses. Hein. Bon, moi, ce que je vous souhaiterais, c'est qu'on vienne aussi avec des solutions. Personnellement, j'y travaille ardemment, notamment au niveau des sujets de présence postale. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait du plaisir à travailler ensemble. Et du coup, j'aimerais qu'on puisse aussi mettre le projecteur sur ce qui se passe bien. Voilà, c'est aussi quelque chose qui pour moi compte beaucoup. On a la chance, nous, de tous se connaître sur le territoire et de pouvoir inventer des solutions aux problèmes qu'on rencontre. On en rencontre, effectivement. Moi, ce que je constate quand même, c'est que quand on doit parler sur la présence postale, on arrive quand même à avoir un interlocuteur et à essayer de trouver des solutions. D'ailleurs, on en a trouvé cet été. Hein. Finalement, on n'a pas fermé les bureaux de poste. Quand on veut trouver des solutions sur la forêt, quand on veut trouver des solutions, quand même, on arrive à avoir en face de nous des interlocuteurs avec qui on peut parler. Et ça, il faut aussi qu'on se le dise. Parce que, donner l'impression que tout est coincé, j'ai l'impression qu'on coince encore plus les rouages. Voilà, donc et moi, mon job personnellement, ma conviction et mon ambition, c'est de mettre de l'huile, moi, dans les rouages, voilà, de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble et trouve des solutions ensemble.
Ce que je peux vous dire, c'est que, le pays est ruiné, et que on est bord du précipice, et que si on ne règle pas les problèmes pour en arriver, ils sont tous à Bruxelles aujourd'hui, pour avoir confiance quand même dans les moyens financiers, nous perdrons des notes de dotation, et ça arrivera dans nos communes. Que je souhaite quand même que par le 49-3, par ce que vous voulez, mesdames et messieurs les parlementaires, qu'on vote un budget quand même. Hein. Parce que si on ne vote pas de budget, on aura un 12e du budget précédent qui tournera et donc il n'y a même plus de choix politique. C'est une mécanique administrative à ce moment-là. Alors c'est pire que tout, là. Sans compter du chaos politique, puisqu'on n'aura plus de gouvernement. Quand on va la discuter pour le faire, bonjour. Et quand on va dissoudre, rebonjour. Bon. Donc moi j'invite tout le monde à beaucoup de responsabilité en fait dans cette histoire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir ce qui s'est passé. Hein. Les 6 derniers mois, pour moi, sont incroyables. Pour cette période-là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est trop grave. Et donc, je suis très attentif à cette démarche qui va être de dire qu'est-ce qui s'est passé au niveau national, dans les comptes publics. Ceux qui nous ont toujours donné des conseils, qui ont fait 20 ans d'études, nous ont mis dans cette situation, quand même. Parallèlement à ça, le pays est en difficulté. Mais enfin, le pays est un grand pays. Hein. Ce n'est pas un désastre non plus absolu. Hein. On peut voir l'autre côté... du volume, on a quand même les moyens de travailler dans nos communes, de vivre, d'avancer, d'être pris en charge, même si tout n'est pas parfait. Et c'est vrai que le pays, on attend tout du gouvernement, ça va mal, vive le gouvernement. Dans les sous, vive le gouvernement, et paye un peu parce qu'il y a une crise. Ouais, ben, vous le demandez, on voit bien la réalité. Hein. Donc on va, en ce qui concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, coudre, recoudre, plan par plan. La région s'est toujours engagée, tu l'as souligné, monsieur le président Spagnou, que nous sommes à vos côtés. Nous, globalement, dans la mandature précédente, celle de Christian et moi-même, c'était à peu près 200 millions d'euros que vous aviez. Sur la mandature précédente, on est monté à 500 millions d'euros. Nous, on engage auprès des communes du département 1 milliard d'euros. C'est-à-dire ce que nous faisons dans nos territoires d'abord, nos communes d'abord, où on finance ou on cofinance 50 à 70% de vos projets, on va le maintenir. C'est un arbitrage qui a été fait, qui va quand même vous soulager un peu, parce qu'au moins là, vous avez un interlocuteur qui est fiable. Vous m'applaudir. Hein. C'est le seul moyen, finalement. Et là, tu as raison, David. Nous, c'est pas parce qu'on est dans le sud qu'on est des ânes, hein, quand même. Voilà. Et donc, moi, je suis pas un centralisateur, tant s'en faut, puisque en tant que mec du sud, je suis plutôt toujours contre Paris. Donc c'est pas pour avoir, comme tu le soulignes, ou soulignerais potentiellement, une tutelle sur vos territoires. Moi, je n'ai pas de tutelle sur vos territoires, moi. J'ai, dans le cadre de la loi, les moyens par le CPER, la stratégie régionale, dans les fonds européens que je lève, la possibilité, dans le cadre de mon budget vert 100% vert, qui est le premier budget vert d'Europe, d'avoir des fonds éligibles pour vos communes. C'est aussi simple que ça dans le mécano.
Camille Galthié, nous sommes au cœur de la rencontre. Ça se passe à Manosque, en marchant, bien sûr. Camille Galthié, maire de Manosque. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement qui sollicite un intérêt énorme?
Évidemment, grosse affluence, on est ravis. En même temps, on n'en doutait pas. On a la venue de deux personnalités exceptionnelles cette année, donc forcément, en termes d'afflux, ça aide. Et on a surtout un congrès avec ce salon des professionnels qui chaque année grossit, et on peut saluer le travail de la Provence et le travail de Daniel Spagnou. Et moi, je suis ravi que ça se passe à Manosque pour la première fois.
Vous avez David Isnard à vos côtés. Qu'est-ce que vous pensez là actuellement d'avoir juste à côté de vous et de pouvoir ainsi converser avec lui?
J'ai voté deux fois pour lui et j'espère que je pourrai voter une troisième fois à une autre élection.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Isnard?
Alors, d'abord, ça me fait très plaisir parce qu'on a un maire à Manosque qui est très compétent et qui, en plus, humainement, est formidable. Parce que j'ai parlé, moi, avec des habitants en arrivant et avec des élus qui tous me disent que c'est un plaisir de travailler avec lui. Et donc, je ne sais pas si je rempilerai à l'AMF, j'en suis pas sûr du tout. Mais j'essaierai de donner une occasion de voter pour moi, dans d'autres circonstances.
David ne s'en souvient pas, mais bon, c'est normal. Il m'avait dédicacé son livre à Marseille quand je travaillais pour Sabine.
Livre que je vous recommande.
Toujours au cœur de la visite des stands avec Marc Chapuis, préfet des Alpes de Haute-Provence, que nous allons essayer de rencontrer. Hein. Marc Chapuis, là vous êtes effectivement au contact avec les stands, vous répondez, vous êtes même un peu l'entremetteur parfois entre les différents stands. Pourquoi cette complicité en même temps aussi?
Ah bah écoutez, aujourd'hui on a tous les maires du département qui sont présents à Manosque et il se trouve que toute l'année je passe du temps à aller dans les communes à la rencontre des maires, de leurs équipes et donc je retrouve ici beaucoup de visages connus, je retrouve aussi beaucoup de partenaires de l'État dans le département, ici avec Orange, avec Bouygues Télécom, avec la Fédération des Travaux Publics et tous les autres et donc c'est important parce que en fait, on est efficace quand on travaille ensemble. Et moi, je pense que l'État doit être en grande proximité avec, évidemment, les maires, mais aussi avec l'ensemble des partenaires. C'est comme ça qu'on fait avancer les dossiers. C'est comme ça qu'on transforme notre département.
Monsieur le préfet, qu'est-ce que vous pensez de cette édition?
Alors, c'est d'ores et déjà un très grand succès. On a la présence aujourd'hui du président de l'AMF nationale, David Lisnard, du président de région, Renaud Muselier. Et je pense que ça a eu aussi un effet parce que je n'ai jamais vu autant de monde au Congrès des maires. Donc c'est une très très belle édition organisée par Daniel Spagnou et je crois que c'est vraiment le rendez-vous incontournable des élus, des acteurs qui font bouger le département.
Daniel Spagnou, maire de Sisteron, président des maires du 04. Monsieur le préfet me disait que c'était vraiment une belle réussite aujourd'hui.
Ah oui, vraiment, vous ne pouvez pas espérer mieux. Il y a beaucoup de monde, presque tous les maires ont répondu présents. Il faut dire aussi que la présence du président national des maires et du président du conseil régional était une belle affiche. Donc beaucoup de maires qui ne viennent pas d'habitude au congrès sont venus pour pouvoir rencontrer ces deux personnalités.
Daniel Spagnou, les réactions, c'est vous qui êtes organisateur, je le rappelle, avec l'association des maires du 04. Les réactions des maires du 04 ce matin et en même temps les réactions des différents élus qui étaient sur scène, entre autres David Lisnard. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben écoutez, moi je trouvais que cet échange entre David Lisnard et les maires était très constructif. Souvent dans des réunions comme ça, on n'a pas le temps de se parler. Là, ils ont posé des questions, vous avez vu, tout à fait normales de la vie de tous les jours. Souvent, on est empoisonné dans nos fonctions par par le tatillonnage administratif de notre pays. C'est ce qui a été dénoncé ce matin, comme encore dénoncé tout à l'heure dans les discours qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on nous laisse un peu tranquille, qu'on nous laisse agir, qu'on nous laisse faire. Nous sommes des maires responsables. On l'a prouvé au moment du Covid, où on a tenu la France debout pendant des mois. Et donc, on demande simplement ça au gouvernement. Mais comme maintenant on a un Premier ministre qui est proche des maires, parce qu'il a été lui-même maire, je pense que ça va fonctionner beaucoup mieux.
Sophie Vaginet-Ricourt, nous sortons donc de cette rencontre avec les différentes interactions. Quelle est votre impression? Qu'est-ce que vous en pensez, Madame la députée?
Eh bien, écoutez, c'est une matinée très enrichissante, notamment avec, évidemment, le discours de Daniel Spagnou qui a posé le diagnostic, en fait, l'État, une photographie aujourd'hui de ce qui se passe pour les collectivités et la réponse de David Lisnard sur les pistes qu'il faudra engager. Et c'est évidemment une réforme de l'État qu'il faut engager en profondeur pour revenir sur les pouvoirs régaliens de l'État, parce que nous avons beaucoup trop de dépenses aujourd'hui et de moins en moins de recettes. Donc il faut aujourd'hui se recentrer sur les pouvoirs régaliens de l'État et réformer l'État avant de demander encore plus d'impôts aux Français.
Une réunion efficace d'après vous?
Oui, c'était une réunion très intéressante et d'un très bon niveau d'information. Et on a bien vu qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe à l'Assemblée, les débats qui sont à l'Assemblée sont aussi dans les départements. C'était le cas ce matin en tout cas, puisque aujourd'hui, la commission d'enquête va faire... nous avons 6 mois pour faire la lumière sur les dérapages aujourd'hui du budget de l'État. Et donc les discussions vont s'engager sur la base de ce qui a été dit ce matin. Donc effectivement, on était sur un très bon niveau d'information.
Christian Girard, monsieur le député de la première circonscription, vous ressortez donc de cette première rencontre. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce qu'on peut en tirer?
C'est compliqué. C'est compliqué parce que hier au soir encore, j'étais en commission des finances. Et donc, quand on parle sous, je commence à bien comprendre. Puis j'ai travaillé quand même 40 ans dans une banque. Et avant, j'étais un peu comptable du Trésor. Donc, quand on parle sous, je suis très, très préoccupé. Car la situation de la France aujourd'hui, elle est désastreuse. Donc, on a des projets. Toutes les communes ont de très, très beaux projets. Mais comment on va les financer? Parce que souvent, un projet ne se fait pas en 6 mois. Souvent, on trace des traits, on prend un crayon, un papier, et on dit on va faire ça, ça, ça et ça. Et des fois, ça prend 4, 5 ans, 6 ans. Des fois, il faut plus d'un mandat pour créer quelque chose de bien construit. Et aujourd'hui, franchement, avec l'état de la France à ce jour, et étant en plus, je répète, à la commission des finances, je suis très inquiet pour ceux qui ont de gros projets, car ça ne va pas se faire comme un coup de crayon.
Voilà. Inquiet, monsieur le député, pessimiste?
Pas du tout optimiste.
Monsieur le maire, venez avec moi, monsieur le maire, venez, j'ai quelques élus à mes côtés. Donc, Nicolas Figuère, vous êtes maire de Saint-Vincent-sur-Jabron. Votre réaction après cette première partie de rencontre de congrès?
Très bien, on est venu passer une belle journée à Manosque. Et c'est bien de voir tout ce monde et tous ces maires qui sont encore présents et qui viennent faire une belle journée avec nous ici aujourd'hui.
En tant qu'élu, en tant que représentant de votre commune, qu'est-ce que vous pensez de l'échange qui a été dit? Est-ce qu'il y a des solutions qui vous ont été peut-être insufflées? Est-ce que vous repartez rassuré?
Rassuré, non, parce que ça va être compliqué les prochaines années à survivre. Et en tant que mairie, en tant qu'entreprise, parce que j'ai aussi une entreprise de travaux publics, mais aujourd'hui, il y a des fournisseurs comme Total Energy qui sont là, qui vont peut-être nous aider sur des postes qui nous sont aujourd'hui très importants, comme le carburant, comme l'énergie, pour qu'on arrive à s'en sortir.
Total Energy, justement, on parle de vous, effectivement, avec monsieur le maire de la vallée du Jabron, de Saint-Vincent-sur-Jabron. Votre présence est indispensable. De quelle façon?
Alors on est sur un développement effectivement des nouvelles énergies, sur la transition énergétique, sur différents niveaux au niveau environnemental. Bon, on est beaucoup plus connu sur les produits traditionnels, dits gazole et essentiellement pour les mairies, GNR pour les agriculteurs et aussi pour tout ce qui tourne autour des mairies. Notre cheval de bataille, c'est effectivement la mobilité et la transition énergétique avec tout ce qui tourne autour de l'électricité. Le HVO 100 dont on ne parle pas assez et qui est produit sur la région puisque la raffinerie, maintenant la bioraffinerie de la MED est une raffinerie qui produit ce type d'énergie totalement bio avec une économie de CO2 de l'ordre de 50 à 90%. Voilà, donc c'est des chevaux de bataille qu'on développe énormément. En termes de prix, on souhaite que les tarifs pour l'ensemble des consommateurs soient le plus bas possible. Mais bon, ce sont des choses que nous ne maîtrisons pas totalement.
Alors d'après vous, vous qui êtes au cœur donc, de l'événement, la stratégie est bonne, la communication passe bien. Comment ça se passe pour vous en tant qu'exposant, on va dire?
Alors on est très ravis d'exposer effectivement auprès du Salon des maires parce que ben, les institutionnels sont très importants dans la stratégie de l'économie en général. On a de nombreux dossiers et ça nous permet de les accompagner au niveau de la région, essentiellement des départements, des mairies, des communes et d'avoir une relation directe avec les principaux décideurs.
Gérard Momel, en tant qu'élu, que pensez-vous donc de cette rencontre et des différents échanges que vous avez eus?
Alors c'est toujours très intéressant de se rencontrer avec les personnalités importantes du département, de la région, le préfet et tous ceux qui exposent ici parce qu'on apprend beaucoup de choses. Ces rencontres sont vraiment positives et on est très heureux à chaque fois de venir pour représenter notre commune. Alors moi c'est la commune de Cérès en Luberon. On a des besoins, on a des projets et c'est toujours très intéressant d'en discuter avec toutes les personnalités présentes parce que c'est avec eux qu'on va pouvoir aboutir. Donc félicitations à l'organisateur pour ce congrès à Manosque qui est vraiment une très grande réussite.
Monsieur le Président, bien, moi je ne vais pas être long, je suis armé.
On a eu un problème cet été, je suis malheureusement maçon depuis le renouvellement. Moi, je pose une question tout simple, c'est les services publics vis-à-vis des petites communes. On s'est trouvé cet été en nous disant on va fermer la poste pendant 15 jours. Bon, il y a eu 3 autres communes aussi, je crois, sur le département, mais enfin, comme Thomas Moisson, il a fait de la résistance. Et je tiens, Daniel, à te remercier de ton soutien, tu as été le premier à me soutenir, et surtout aussi le sénateur Jean-Yves Rousse, parce qu'on a pu avoir gain de cause. Alors, monsieur le président national, on est déjà dans des situations difficiles dans nos communes rurales. Il faudrait savoir si on veut passer plus qu'aux grandes villes, les communes rurales, les abandonner, surtout en nous disant que c'est des problèmes vis-à-vis des congés d'été. Au mois de juillet et août, voilà, on en a fait comme ça, on fermera la poste carrément. Alors, il y a tant d'étudiants qui ont des bacs plus, parce qu'on dit qu'il faut être intelligent pour pouvoir tenir un bureau de poste, il y a tant d'étudiants qui ont des bacs plus X qui ne demanderaient pas que mieux à faire un petit job d'été. Alors la poste, il faudrait peut-être qu'elle revoie sa copie, et on compte sur vous pour que ça ne se passe plus. Voilà, c'est tout.
Jean-Paul Comte, réaction à la sortie de cette rencontre.
Très bon débat, tout le monde a évoqué les problèmes, tout le monde reconnaît qu'il est en grosse difficulté. Ce n'est pas pour autant qu'on doit pénaliser les communes, on doit continuer d'aller de l'avant et satisfaire nos habitants. Mais je crois qu'on est conscient aujourd'hui que des sous, c'est des sous, et nous les paysans, on sait ce que c'est de gagner des sous.
Jean-Paul Comte, les discussions qui ont eu lieu, elles sont franches, elles vous vont bien?
Oui, moi j'aime bien, tu me connais depuis des années, je suis toujours pour le direct. Là, vraiment, personne n'a gardé la langue dans sa poche, comme on dit. Et ça, on aime bien, au moins, on sait où on va.
Nous sommes actuellement sur le salon des artisans, les exposants donc, qui sont ici, avec le président de la région, Renaud Muselier, qui est là également, aux côtés d'Eliane Barré, présidente du conseil départemental. Patricia Granet-Brunello, maire de Digne et présidente de la communauté de communes sur Digne-les-Bains.
Le congrès a bien démarré, tout se passe bien, et puis on a de belles personnes qui sont là, la présidente du département, le président de la région, le président de l'association des maires de France, David Lisnard. Je trouve que c'est une belle session, un beau congrès qui est bien démarré. Et puis Daniel, toujours aussi en forme. Voilà.
Patricia Granet-Brunello, si vous posiez une question donc au président des maires de France, quelle serait-elle?
Comment on fait aujourd'hui pour la santé?